forcé quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit et puis quelques cailloux. D'abord on s'avançait en frappant dans les mains, il y en avait parmi eux des vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près, eux devaient la boucler, nous pareil on chantait.
Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça?
Combien ça vaut, quel est le prix de te faire détester ainsi par tous ces gens que tu connais pas?
Vous écoutez On verra jeudi, une hebdomadaire d'actualité de lutte, tous les jeudis de 17h à 18h en direct sur Radio Piquaise. Cette émission sera composée d'infos glanées sur les médias libres, sur les internets. Ça prendra différentes formes, des brèves, des chroniques.
Des extraits d'articles.
Des communiqués. Mmh. Et pas trop de blabla.
Pas trop de débats.
Mmh. Alors on commence tout de suite.
Ouais, c'est la première du coup aujourd'hui.
Ouais. C'est la première, oui. Bienvenue à nous.
ouais, on va commencer par quelques infos internationales. En Colombie, depuis lundi, des manifestations d'étudiants et d'étudiantes et des affrontements avec la police ont lieu à Bogota. Ça a commencé à l'Université nationale dans le centre de Bogota, mais ça a l'air de se propager dans d'autres universités depuis. Et tout à l'heure, on a eu nouvelles d'une copine qui est à Medellín en ce moment et qui nous informait que ça commençait aussi à se révolter à l'université de Medellín. Et on imagine aussi, du coup, dans d'autres villes de Colombie. Elle manifeste pour dénoncer le 21e anniversaire de la création de l'ESMAD. L'ESMAD, c'est la police anti-émeute. Et suite aux nombreuses violences commises par ces unités dans les manifs contre Duque et devant l'université. Et tout ceci, ça se passe dans un contexte où l'ONU dénonce dans un rapport qui a été publié hier mercredi un usage inutile et disproportionné de la force de la police et des militaires en Colombie. Le rapport précise que dans 13 cas de mort impliquant des agents de l'État, il a été observé un usage inutile et ou disproportionné de la force. De ce fait, la haute commissaire appelle l'État à restreindre le plus possible le recours à l'armée dans les situations liées à la sécurité citoyenne, y compris de protestations sociales. Le rapport fait état d'abus sexuels, de corruption, de complicité avec des groupes illégaux et d'attaques contre des journalistes par des membres des forces de l'ordre. Le rapporteur a exprimé la préoccupation que les enquêtes sur de présumées violations des droits humains soient menées par la justice militaire. L'ONU condamne aussi des attaques contre des journalistes durant ces manifestations, avec 23 cas attribués à la police selon des chiffres de la Fondation pour la liberté de la presse. Le rapporteur Alberto Brunori a également évoqué 3 cas présumés de violences sexuelles perpétrées par des membres de l'armée l'an dernier. Il souligne qu'en dépit de l'augmentation de la présence militaire dans des régions comme l'Arauca et le Catatumbo, dans le nord-est du pays, le nord du Cauca, dans le sud-ouest, et le sud du Cordoba, dans le nord-ouest de la Colombie, le nombre de morts violentes s'est accru. Et le taux national d'homicide en 2019, il a été de 25 pour 100 000 habitants. L'ONU a répertorié 36 massacres, le nombre le plus élevé depuis 2014, et ces massacres ayant fait 133 morts. Du coup, voilà, on essaierait de suivre ce qui se passe en Colombie dans les prochaines semaines.
Aussi, des affrontements sur l'île de Lesbos contre la construction de centres fermés pour migrantes. Donc, des affrontements ont eu lieu depuis mardi entre des centaines d'habitants et habitantes de Lesbos et de Chios et des forces anti-émeutes qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Les habitantes se battent pour dénoncer la construction de nouveaux camps fermés pour les migrants et migrantes sur ces îles de la mer Égée.
Et pour finir avec les infos internationales, on a une info qui vient d'Ouganda. Puisque un juge a acquitté le 20 février l'universitaire et militante féministe Stella Nyanzi, reconnue coupable en août dernier d'avoir cyberharcelé la famille du président Museveni. Un tribunal de première instance l'avait condamné à 1 an et demi de prison pour des propos jugés obscènes visant Museveni et sa mère sur Facebook. Stella Nyanzi, anthropologue de formation, était accusée de communication offensante et de cyberharcèlement. Le parquet lui reprochait d'avoir écrit et publié sur sa page Facebook un poème obscène sur le président. Ce texte, certes cru, se termine sur une phrase on ne peut plus claire, je ne serai pas muselé. À sa sortie du tribunal, l'ex-journaliste a aussitôt été entouré de femmes qui lui ont passé une écharpe où on pouvait lire « Nique l'oppression ». Puis, des gardiens de prison ont tiré en l'air pour disperser la foule et ramener Stella Manu Militari à la prison de Lutsira pour régler les détails de sa sortie. Lorsqu'elle est sortie pour de bon, Stella a déclaré à la presse, sous les vivats de ses supportrices, que Museveni, président illégal de l'Ouganda, devait quitter le pouvoir. Quelques-unes d'entre elles brandissaient les poésies que Stella Nyanzi a écrites en prison. L'un des textes dit « Les poèmes des opprimés opprimeront les oppresseurs. Les poèmes nous rendront libres. »
C'est fini pour cette première partie
internationale.
International. Est-ce qu'on continue sur la partie nationale ou on écoute de la musique ?
On peut écouter un morceau de musique.
Ok, alors on a reçu une petite compile de plusieurs titres d'une personne qui habite dans les hauteurs froides et montagneuses de Bogota. Donc son nom d'artiste c'est Chike Drama. On écoute ça tout de suite.
Antes de dormir, me gustaría escucharte de nuevo, inventando historias para hacerme reír. Tengo tantas dudas sin respuesta. Quiero esas y me encuentre. Y tal vez así me encuentre. Y tal vez así me encuentre y pueda ser yo sin vos. Y tal vez por fin me encuentre.
On a une dernière petite rubrique internationale. Et donc ça, c'est à Malte, ça s'est passé lundi dernier, lundi 24. Il y a 19 personnes qui ont été condamnées entre 9 mois et 1 an et demi de prison suite à une émeute qui a eu lieu en octobre dernier au centre de rétention d'Al-Safi. Al-Safi, c'est au sud de Malte. Ils se sont révoltés contre l'enfermement et juste les conditions de vie dans le CRA d'Al-Safi. Il y a 2 CRA à Malte où il y a eu ces derniers mois plusieurs mouvements de protestation. Voilà, et ça fait lien avec l'actualité nationale.
Ouais, on va commencer les infos nationales par vous parler un peu de choses qui concernent les centres de rétention. Et on va commencer par un article qui est paru ces derniers jours sur plusieurs sites Mutu, notamment le site de Rébellion, je crois. Qui s'appelle « Contre les lieux d'enfermement en France et ailleurs, attaquons Eiffage ». 90 jours de rétention maximale, 481 nouvelles places en CRA dans les prochaines années en France hexagonale. L'État s'emploie à enfermer, torturer et expulser de plus en plus d'étrangers et étrangères. Et il ne lésine pas dans la guerre qu'il mène contre les personnes qui n'ont pas les bons papiers. Ainsi, entre la rouverture des CRA de Hendaye et de Guespolheim, l'extension des CRA de Nîmes et de Coquelles, le lancement de la construction des CRA de l'Olivet, de Bordeaux et du Saucon CRA de Lyon, les appels à projets fleuris sur les plateformes d'annonces de marché public et les promoteurs immobiliers constructeurs de tôles partent à la cueillette. Les boîtes qui collaborent avec l'État dans l'industrie de l'expulsion lorgnent logiquement sur les dizaines de millions d'euros d'argent public qu'ils peuvent empocher. Une poignée d'entreprises se partagent le marché, Temis FM, filiale de Bouygues, Jepsa, filiale d'Engie, Sodexo, Spibatignol, Eiffage. Ciblons plus particulièrement Eiffage, groupe expert de la construction immobilière répressive et mortifère. Eiffage gère 100 000 chantiers en France et à l'international. Parmi l'un d'eux, on compte la gestion de la réalisation du nouveau CRA de Lyon à Colombey-Saunieu, dont les travaux vont s'étendre de mai 2020 à septembre 2021. Eiffage sera assisté par l'entreprise ICAMO qui sur son site internet place la construction d'un CRA dans la rubrique Sûreté. Eiffage, c'est des millions d'euros amassés sur le dos des sans-papiers qui subissent la violence de l'enfermement dans les CRA, tandis que l'entreprise redore son blason en prétendant avoir un discours écologiste et être contre les discriminations et les besoins des populations. PDG d'Eiffage depuis 2016, Benoît de Ruffray aurait perçu un salaire global de 1 515 416 euros en 2016, quand son groupe présente un chiffre d'affaires pour l'année 2018 de 16,6 milliards d'euros. Faire trimer des ouvriers pour faire construire des tôles, ça paye. L'entreprise reçoit de l'argent de l'État qui lui s'endette durablement. C'est le principe des fameux partenariats public-privé. Et donc les populations pauvres, racisées, sans papier, construisent ces tôles et risquent après d'y être enfermées. De l'État aux entreprises et des acteurs de la marchichine à expulser participent à bâtir et entretenir ce monde d'exploitation et de domination qui a besoin de prisons et de frontières pour continuer d'exister. Voilà, du coup, souvenez-vous, Eiffage participe à l'enfermement des personnes en France.
On a oublié de préciser, mais toutes les sources là dont on parle ce soir, on les mettra dans l'article qui accompagne le podcast sur le site de Radio Piquez.
Quand on aura fait la page de cette nouvelle émission.
Cette nouvelle émission, d'ailleurs, c'est On verra jeudi, une hebdomadaire d'actualité de lutte, tous les jeudis de 17h à 18h, ou peut-être avant.
On continue avec une autre info sur les CRA. Ça vient du centre de rétention administratif de Lyon-Saint-Exupéry. Il y a des témoignages de prisonniers et prisonnières du CRA de Lyon-Saint-Exupéry qui ont été publiés le lundi 24 février. Ils témoignent de la violence de la PAF, la police aux frontières, en ce moment même. Et ils demandent à diffuser largement ces témoignages pour les soutenir. Alors, je commence par le premier témoignage. Ça a commencé comme ça. Après le repas de midi, on est rentré dans notre côté orange. Alors il y avait un gars albanais qui a demandé à ouvrir la porte. Et voilà, il y a un policier qui a répondu très agressivement. Lui, il lui a dit « Pourquoi tu me parles comme ça, agressif ?» Alors, ils sont venus tous. Ils ont... passager inaudible, tout le monde, et on ne sait pas trop ce qu'il y a. Ils ont attrapé le gars, ils ont étranglé face à la mort, tu vois, qui a enlevé la main des policiers. Et voilà, ils l'ont tabassé à mort, tu vois. Ils vont le ramener à l'hôpital, quoi. Et voilà, nous, on va commencer aussi à faire notre grève. Et ça va commencer dans tout le centre, c'est pas juste un côté. Ça va commencer dans tout le centre. Et il y a un deuxième témoignage qui dit, ils sont là avec leur plastique, avec leur casque, avec le gaz, avec tout ce qu'il faut. Ils sont venus là pour nous taper, quoi, comme ça. Ils sont venus avec leur plastique, là, qu'ils prennent devant eux. Tu vois, ils étaient avec le gaz, là, tout le matériel, là, tu vois. Ils sont venus pour nous taper, mais heureusement, il s'est rien passé. Mais il nous a menacés. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir. Je sais pas. Voilà, ça a commencé à l'autre côté. Ça va passer dans tous les côtés. Ils courent maintenant toute la journée. Ce qu'ils font, là, c'est pas bien. Ils vont trop, trop loin, franchement. Voilà, de tous les côtés, c'est comme ça. Mais chez nous, on a cassé toutes les portes, tu vois. Bah ouais. Ça fait réagir, tu vois, quand ils viennent et ils tapent les gens comme ça pour rien du tout, tu vois. Voilà. Du coup, pour l'instant, il y a 9 personnes qui sont mises à l'isolement. Tous les prisonniers et prisonnières sont enfermés dans la cour à l'intérieur du CRA. Et pour avoir des nouvelles, il y a le blog Abba les CRA qui relaye toutes les infos qui concernent les centres de rétention. Une dernière petite info... qui concerne l'enfermement. La semaine prochaine à Bure, il y aura une semaine anticarcérale dans l'ancienne gare de Luméville près de Bure. Du coup, Bure, c'est le lieu d'une lutte contre un projet de centre d'enfouissement de déchets nucléaires. Et l'idée, c'est de prendre le temps de se rencontrer entre personnes et groupes de différents pays, d'avoir des moments formels et informels de discussion, des ateliers, des projections de films, des lectures. Vous pouvez venir à la semaine avec vos propres propositions en nous informant à l'avance ou non. Les infos QS sont également les bienvenues. Et pour retrouver les infos concernant cette semaine anticarcérale, vous pouvez aller sur le site de l'anarchiste Black Cross. Voilà.
Et malheureusement, le racisme d'État, ça se passe pas forcément dans les CRA, c'est partout. Du coup, pour aujourd'hui, moi, j'ai choisi de reprendre un peu une info qui date du début du mois, du début février, là, à Toulouse, où il y a un gros bâtiment qui était occupé, qui a brûlé. Et ça date un peu, mais malheureusement, c'est aussi actuel, en fait. C'est pas juste cet événement, c'est les conditions de logement pour les personnes précarisées, c'est tous les jours. Du coup, ce squat, il avait ouvert il y a quelques mois, il y avait plus de 500 personnes, il y a eu un gros incendie au début du mois, et les personnes, elles ont été... on a proposé de les reloger dans des gymnases, puis au parc des expos. Il faut savoir que les 2/3 des personnes, elles ont refusé d'aller dans ces hébergements par peur de se retrouver avec les flics, l'OFI, peur d'être fichées, raflées. Donc il y a eu des ouvertures de nouveaux bâtiments. Je vais vous lire un petit extrait du communiqué du collectif... De ces squats-là. Il aura fallu que le bâtiment brûle pour regarder à nouveau ces quelques 500 visages affolés dans la rue, observant leurs toits et leurs maigres effets personnels partir en fumée, pour leur accorder un temps éphémère dans les médias, mais aussi pour les reloger en urgence dans les gymnases le soir, nous laissant entrevoir le potentiel d'action d'hébergement en leur pouvoir si la volonté politique était là en dehors des événements dramatiques comme celui-ci. On ne peut pas s'empêcher de repenser au nombre de places en gymnase ouvertes pour les sans-abri dans le plan hiver 72. Donc ça, c'est 72 places à Toulouse. Mais c'est les mêmes mécanismes dans toutes les villes en France. Du coup, les gens sont pas allés dans les gymnases. Comme je disais, il y a eu d'autres bâtiments de réquisitionnés. Il y a eu toute une organisation pour... la bouffe, le soutien moral, refaire les démarches administratives quand t'as perdu tous tes papiers. Un des bâtiments a été expulsé hyper rapidement. Ça a été organisé par Nelson Bouard. Donc Nelson Bouard, directeur départemental de la Haute-Garonne de la Sécurité publique, et félicité par le préfet du même coin. Et donc, je le reprends aujourd'hui parce qu'il y a 2 autres lieux qui ont été occupés et il y a des audiences à venir, dont une demain et une le 6 mars. Voilà. Donc, c'est ça, rappeler que c'est pas juste l'incendie et qu'en fait, c'est pas juste Toulouse, c'est aussi à Brest. À Toulouse, il y a 23 457 logements vides, 46 776 Toulouse Métropole et 2,8 millions en France de logements vacants. Voilà.
Ça va ?
Ouais, on va parler fichage maintenant.
On parle fichage puisqu'on est dans les super infos et les super décrets que le gouvernement nous sorte. On va parler des gender notes pour faciliter le fichage policier et la reconnaissance faciale. Donc le gouvernement vient d'autoriser la gendarmerie à déployer une application mobile qui va faciliter la collecte de photos et d'informations sensibles. C'est quoi les informations sensibles ? C'est la religion, la politique, sexualité, prétendue origine raciale, etc. Donc ça va permettre aussi leur transfert dans des fichiers extérieurs comme le TAJ. J'ai perdu ce que signifie TAJ. Traitement des antécédents judiciaires. Donc c'est ce qui permet la reconnaissance faciale et voilà, les fiches de services de renseignement qui ont une activité de surveillance politique. Donc c'est un décret qui a été publié samedi et qui était effectif dès le lendemain de la publication. Ces notes peuvent être prises par les gendarmes pour n'importe quelle personne qu'ils suspectent d'avoir commis une infraction. Ça peut aussi être d'enregistrer toutes les informations que j'ai dit avant, à la simple condition que de telles informations soient, entre guillemets, absolument nécessaires au fichier de police judiciaire. Mais alors, on se demande ce que ça veut dire, absolument nécessaire, parce qu'en pratique, c'est quelque chose qui n'est jamais vérifié.
Et qui juge de la nécessité de l'information ?
Est-ce qu'on ne peut pas être aussi dans un truc d'anticiper que ça peut être absolument nécessaire à un moment ? Voilà. Si tu veux rajouter des trucs.
Moi, je sais juste. La sexualité des personnes, comment.
Ouais. C'est basé sur quoi ?
L'origine, sur quoi ils se basent. Du coup.
Est-ce que, je sais pas, moi, je me disais par exemple pour les travailleurs et travailleuses du sexe, si t'as des TDS de rue qui sont chopés en pleine action, bon, bah, c'est noté dans leur fichier, machin.
De toute façon, du coup, ça veut dire que toutes les personnes qui vont sortir des codes, ouais, des normes hétérosexuelles, blanches, bourgeoises, enfin...
Est-ce que si t'as un pins trans ou PD sur ta veste, hop, ok, pins trans PD.
De toute façon, on sait, on imagine ce qui sera, ouais, noté.
Ces notes sont censées être gardées 3 mois. 3 mois, mais s'il y a une modification qui sont apportées à ces notes, elles peuvent être, voilà, ça repart à 3 mois d'espérance de vie, et voilà, pour aller à un total de 1 an. Normalement, ces notes, c'est uniquement la personne qui a pris ces notes qui peut avoir accès, sauf s'il donne accès à certains de ses collègues. Donc voilà, il peut donner accès à tous les collègues qu'il veut. C'est des notes qui peuvent être aussi transmises au maire, par exemple, de ta ville. Je crois qu'ils peuvent être transmises à la préfecture de ton département. Et voilà, plein de choses super joyeuses. Encore une fois, ce ne sont pas les décrets qui encadrent les pratiques policières, mais les pratiques de la police qui font loi. Donc voilà, l'article, on vous le mettra dans...
Ouais, c'est un article de la Quadrature.
De la Quadrature, qui est sorti genre hier ou avant-hier. Donc voilà, c'est tout nouveau. Et sans transition, j'avais envie de vous lire un communiqué coécrit par Accept ST, le bus des femmes, le Stras et Trans United Europe, suite à l'assassinat d'une travailleuse du sexe trans originaire d'Amérique du Sud, donc qui s'appelait Jessica Sarmiento. Donc je vous lis le communiqué. Nous sommes une nouvelle fois dans la tristesse de la découverte de la mort d'une des nôtres. Dans la nuit du 20 au 21 février, Jessica Sarmiento a été tuée sur son lieu de travail, renversée par une voiture roulant à toute vitesse dans une allée du bois de Boulogne. Les premiers éléments de l'enquête communiqués par la presse indiquent que la voiture qui l'a percutée ne se serait pas même arrêtée. Nous sommes particulièrement consternés par la possibilité que cet acte était volontaire. Une enquête a été ouverte et devra faire la lumière sur les circonstances de ce nouveau drame, mais il appelle aussi à une réponse de la classe politique. Aujourd'hui, comme il y a 2 ans après l'assassinat de Vanessa Campos, nous sommes à nouveau sous le choc de la mort d'une de nos sœurs, camarades et collègues. Notre douleur et notre souffrance sont indescriptibles. Et notre colère aussi. Nous savons que nous allons devoir lutter contre l'entreprise de banalisation médiatique déjà à l'œuvre dans Le Parisien, dont la première publication annonçait comme à l'accoutumée la mort d'un prostitué travesti dans un haut lieu de la prostitution masculine. Jessica était une femme trans, travailleuse du sexe, migrante, et elle a été tuée sur son lieu de travail. Nous sommes atterrés de remarquer que le premier réflexe de la presse est encore de stigmatiser. En France, en 2020, il est encore permis de penser qu'agresser des personnes trans, agresser des travailleurs du sexe, sont des actes qui peuvent laisser à leurs auteurs un certain sentiment d'impunité, voire même de fierté, car ils laissent à leurs spectateurs un sentiment d'indifférence, voire d'approbation. Nous, ils nous plongent dans l'horreur, dans la tristesse et dans le constat amer sans cesse renouvelé que nos vies valent tellement moins que celles des autres. Jessica était une femme transpéruvienne, venue en France l'an dernier et aspirée, comme nous toutes, à une vie meilleure dans ce pays. Elle avait été une première fois suivie par une association abolitionniste de la prostitution qui avait échoué à assurer sa prise en charge. Elle s'est par la suite tournée vers AcceptST. Elle a bénéficié dans notre association d'un accompagnement social, juridique, sanitaire et administratif, mais elle y a aussi trouvé un lieu de refuge et d'entraide, un soutien affectif et humain. Le mois dernier, elle avait commencé à participer à nos cours de français. Elle y était studieuse, appliquée et généreuse, apportant à chaque séance le repas pour ses camarades. C'était l'élément moteur du groupe, selon son professeur. Elle se préparait pour la fête mensuelle de l'association prévue ce 28 février. Elle était venue en France pour y travailler et y vivre. Elle y a travaillé, y a vécu un an. Et nous ne pouvons pas supporter l'idée qu'elle y soit morte pour ces raisons. Nous sommes déjà en contact avec sa famille au Pérou et nous faisons le nécessaire pour qu'elle puisse venir rapidement à Paris. Nous organisons une veillée ce soir à 23h au Bois de Boulogne. Donc ça, c'est un communiqué qui date d'il y a quelques jours. Nous appelons nos proches, nos camarades, nos collègues et toutes celles qui le peuvent et qui le pensent et qui pensent que nos vies méritent tellement mieux à nous rejoindre à ce rassemblement. Il y a des rassemblements, la fin du communiqué. Il y a des rassemblements qui sont organisés dans plusieurs villes en France. Aujourd'hui, il y en avait un à Lille à 18h là. Et samedi 29 février, il y en a un à Paris, un à Caen et un à Marseille. Et le 5 mars, il y en a un à Toulouse. Voilà.
On peut préciser que c'est pas la première travailleuse du sexe qui est assassinée depuis.
Il y a une dizaine de travailleuses du sexe assassinées depuis septembre 2019. Il y a des témoignages de travailleurs et travailleuses du sexe qui disent qu'ils n'ont jamais connu un tel chiffre, en fait, en si peu de temps. C'est vraiment grave. C'est grave ce qui se passe. Il y a une inaction totale des politiciens et des ministres et du président. Voilà.
Et puis, le NIC, pendant ce temps-là, la soie abolitionniste qui continue à faire sa propagande et à organiser des colloques en disant que c'est des sauveurs et des sauveuses.
Merci, Loni.
Merci, Loni. On finit avec une dernière info nationale. C'est une info d'aujourd'hui. Les travailleurs sans papiers qui occupent le nouveau siège du journal Le Monde depuis ce matin et qui font un appel à aller les soutenir. Du coup, la trentaine de salariés qui travaillent pour la société Eiffage, tiens, encore eux, et ses sous-traitants Cicad et Golden Clean, occupent avec leur syndicat, la CNT Solidarité Ouvrière, depuis ce matin, du coup, jeudi 27, le chantier du nouveau siège du journal Le Monde. Ça se situe au 67 avenue Pierre Mendès France, dans le 13e à Paris. Ils travaillent sans contrat, ni bulletin de salaire. Certains sont payés 40 euros par nuit et 5 euros pour les heures supplémentaires. Tous exigent la fin de la sous-traitance et leur embauche directement par la société Eiffage, le paiement de toutes les heures travaillées au taux horaire en vigueur, la remise de leur bulletin de salaire, le respect du code du travail, des normes de sécurité et des conventions collectives, et la remise de documents pour permettre leur régularisation. Le journal Le Monde, qui a confié la réalisation de son nouveau siège à des patrons voyous, doit aujourd'hui faire pression pour que le groupe Eiffage régularise la situation de tous ses travailleurs. Et du coup, une petite info de dernière minute, les sans-papiers qui occupent le futur local de notre belle presse nationale devaient rencontrer Louis Dreyfus, le président du directoire du Monde, à 16h. Du coup, peut-être qu'on aura plus d'infos ce soir sur est-ce que le directeur du Monde prend ses responsabilités. On n'y croit pas trop, mais... Ouais. Il fera sûrement des belles promesses. Mais... Voilà.
C'est fini pour cette partie nationale.
On écoute un petit morceau de musique.
On écoute Comme un goût de revanche de Rature.
celle-là, c'est pour Nikki et Tonnerre, et tous ceux qui s'y reconnaîtront. RATUR, Amatomic Prod. J'attends pas que cette bande de guignols m'explique. Rien dans cette mascarade qui m'excite. Voir mon pote partir pour 6 biches. Il a fauté certes, mais que fait le spi à part aiguiser sa peine, attiser sa haine, éloigner sa reine. Aiguiser sa peine, attiser sa haine, éloigner sa reine. Aiguiser sa peine, attiser sa haine, éloigner sa reine. Accepter sa condition, c'est mort. On fera cette édition face à leur ordre. La haine a ses raisons. Au-delà des murs, elle résonne. Au fond de nous, elle réside. Vie brisée, enfance cachée, vie s'exacerbée. Abandon, abonnement à la crasse. Et tu oses dire que c'est pas de chance. Moi, je prends le problème à sa source. Éradique les soupçons. Ensemble, on pense nos blessures. Sauf que jamais ça ne s'arrête. Lorsque l'on s'apprête à sortir la tête de l'eau.
D'écouter Rature, du coup, qui jouera demain avec Couteau entre les dents.
À Trémargat Café.
Au Trémargat Café. Trémargat.
C'est au-dessus de Rostrenin.
Ouais, c'est dans
en dessous de Guingamp.
Trégor, quoi. C'est dans la campagne du Trégor. Mais le Trémargat Café, c'est un chouette endroit.
Alors, ça petite, va être super.
Petite parenthèse, si vous avez reconnu ma voix, je cherche un moyen d'y aller. Voilà, donc contactez-moi.
On va passer à des infos plus locales. Alors, info Brest, ailleurs en Bretagne. Ouais. On commence, on avait envie de vous informer de l'ouverture d'un nouveau squat dans un manoir à l'est de Rennes. Il y a maintenant presque une semaine, un collectif de personnes exilées et de militants militantes a ouvert un bâtiment. C'est situé au 221 avenue du Général Leclerc à Rennes. Donc, et c'est pour y loger un certain nombre d'habitants et habitantes du hangar des Veillettes, qui s'était fait expulser il y a quelques temps, je crois. Propriété de la mairie, ce bâtiment lié au centre hospitalier voisin de Guillaume Régnier est vaste, à l'intérieur comme à l'extérieur. La vie commençait à prendre son cours dans le nouveau squat que certaines appellent déjà le château. Et du coup, mardi 25 février, une délégation d'habitants, habitantes et de soutien au nombre de 12 personnes qui ont pu rencontrer les autorités municipales, soutenues à l'extérieur par une quarantaine de personnes. Et plutôt, l'issue des discussions, elle est plutôt positive, puisque la mairie s'engage à ne pas demander d'expulsion. Elle rompt le contrat d'utilisation du lieu par le centre hospitalier et demande à ce dernier de rétablir les fluides, du coup, eau, électricité, chauffage. Et par la suite, les autorités municipales se sont engagées à légaliser la situation d'occupation des habitants, habitantes. Bon, c'est les annonces de la mairie de Rennes, juste avant les élections municipales.
On verra, quoi.
Voilà. On imagine que c'est un petit coup de de propagande avant les élections. Mais en tout cas, bon, au moins, les personnes ont un toit pour les prochaines semaines.
Une autre info sur Nantes, ce coup-ci. Donc, actualité, événement de lutte. Il y a un carnaval qui est organisé, donc un carnaval contre les projets inutiles et imposés du Grand Ouest. L'idée, c'est un peu de regrouper divers collectifs et personnes qui luttent dans ces milieux-là, quoi. Projet inutile, imposé du Grand Ouest. En vrac, il y a de construire des zones commerciales sur des terres humides, de faire des parkings sur des terres agricoles. Il y a par exemple à Langoëlan, il y a une lutte contre la construction de poulaillers géants. Et l'objectif de ces poulaillers, c'est de produire 500 000 poulets au minimum par an. Donc j'ai fait vite fait le calcul, ça fait 1369 poulets par jour, en moyenne. Enfin, minimum plutôt qu'en moyenne. Donc, en exemple de tous ces petits projets-là. Du coup, le carnaval, le rendez-vous, c'est à midi au Miroir d'eau à Nantes. Il y a des covoites, des hébergements et une garderie qui seront organisées pour cette journée. Il y a les infos sur lesbeton.org. Du coup, ça va être la fête, carnaval, donc prenez vos masques et protégez-vous aussi. Et quand on va au carnaval ou n'importe où, on n'oublie pas que nos luttes, elles ont pour but de détruire le pouvoir et les rapports de force, et pas de créer de nouvelles élites et de se réapproprier de nouveaux pouvoirs. Voilà. On n'oublie pas.
Spéciale dédicace de certaines personnes qui prennent le pouvoir à la ZAD, par exemple.
Dédi. une autre info, ce coup-ci, du coup, de Brest, donc du comité, communiqué de l'Assemblée Interpro Interlude du 24 janvier. Donc un petit extrait, de moins en moins de monde en assemblée, mais les personnes présentes ne veulent pas se contenter de la date du 31 mars. On cherche des infos sur ce qu'il se passe à la fac le 5 mars. Et l'idée, c'est aussi de tracter le 8 mars. Il y a un rendez-vous qui est donné. Si le gouvernement utilise le 49-3, il y aura le soir même une manif au flambeau à Liberté à 18h. Donc le soir même, Liberté 18h, manif au flambeau.
Et c'est la fin des actualités qu'on a glanées. Ah non,
non,
pardon.
Une dernière info anti-REP. Alors pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore... Plusieurs personnes ont été sanctionnées pour leur participation à la manifestation du 9 janvier dernier au port de commerce. Ça fait suite à déjà des amendes pour participation à manif interdite que des gens avaient reçues après le G7 des parlementaires en septembre à Brest. Du coup, ces amendes-là, elles ont été de manière totalement arbitraire, sans justification, majorant un peu plus la criminalisation d'un droit fondamental, le droit de tout citoyen, à pouvoir manifester. Mais nous ne sommes pas décidés à rester les bras croisés face à cette injustice. C'est pourquoi, collectivement, il a été décidé de contester ces amendes. Du coup, il y a un appel à toute personne isolée qui se retrouverait à recevoir des amendes pour ces manifs, les manifs dont on a parlé. J'ai 9 janvier, mais aussi ça pourrait arriver pour d'autres manifs. Et ben, il faut contacter l'adresse suivante, c'est antirepg7brest@riseup.net. Et surtout, contactez l'antirep G7Brest, mais ne payez pas les amendes. Voilà. Il y a différentes choses qui se discutent pour réagir collectivement à la répression.
On vous mettra l'adresse,
on mettra l'adresse
dans l'article.
Vous pouvez aussi retrouver toutes ces infos là qui concernent Brest sur le site Mutu local, du coup, bourrasque-info.org. Voilà.
Et c'est, cette fois, c'est vraiment la fin.
Ouais.
Il est 17h40 et c'est la fin de notre première émission. On verra jeudi.
Ouais.
On se retrouve la semaine prochaine.
On se retrouve jeudi, du coup. Et on verra jeudi.
Heure, on verra jeudi de quoi on parle. Hein, l'hebdomadaire d'actualité de lutte.
Peut-être qu'on essaiera de faire un générique d'ici là, tout ça, tout ça.
Ah oui, parce que la musique qu'on a entendue en introduction de cette émission, c'est Allez les gars de Gam. Allez les gars.
Et là, qu'est-ce qu'on écoute du coup ?
Alors, c'est encore une sélection de moi. On écoute Ray.
Moi.
On écoute Y a rien de, des potes de couteau entre les dents. Voilà, Y a rien qu'on retrouve demain soir à Trémarguette Café.
Ouais.
Voilà.
Okay.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
On verra jeudi.
On verra jeudi.
Tous les jours se colère, on est bien tout collé. Moi je roule que des sopères, hésite pas à demander. À trois sur le scooter, on est venu tout piller. Même pas peur d'avoir peur, on est venu pour kiffer. Ouba ouba, je suis français sous les basses. Oula oula, les cons défendent la nasse. Kouba kouba, j'envoie des carapaces. L'aide à bois quand la caravane passe. Ouais, je t'ai jugé sur tes comportements. T'es exploité, ouais, le confortement. Fouteur de merde sur le CV, CED dangereux comme la montée des eaux. J'sais pas si j'ai peur des eaux.